RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
La rétrospective de l'actualité de la semaine, et oui, et encore, et ben oui, la loi El Khomri, mais version 2. Hein. Cette semaine, on a eu la version édulcorée par le gouvernement, avec la suppression de ce qui faisait hurler les syndicats, à savoir le plafonnement des indemnités prud'homales touchées par le salarié quand celui-ci poursuit son ancien employeur devant les prud'hommes, et qu'en général, il gagne presque à chaque fois. Ces indemnités prud'homales peuvent mettre en grave péril les TPE et PME. Il était question de les plafonner, eh bien non, finalement, c'est annulé. Autre disparition dans la nouvelle mouture de la loi El Khomri, c'est la suppression des accords d'entreprise pour négocier entre le patron et ses salariés le temps de travail et l'augmentation du temps de travail quand c'est nécessaire. Il faudra passer par les syndicats. Les syndicats qui, pour certains d'entre eux, ne sont toujours pas satisfaits et réclament le retrait complet. Ils appellent d'ailleurs à une nouvelle manifestation. Ce sera la troisième jeudi prochain. Autre nouveauté annoncée par le gouvernement, la retenue des impôts à la source pour les salariés. Ce seront, à partir de janvier 2018, les employeurs qui devront retenir sur le salaire de leurs employés le montant qu'il faudra verser directement au fisc. Nouveau motif donc de mécontentement pour les entreprises. C'est pas leur boulot, disent de prélever l'impôt, surtout que ça sera pas aussi simple que ça en fait. Car si le revenu d'un salarié augmente dans l'année, il le déclarera l'année suivante et il en payera la régularisation l'année encore suivante. Il y aura donc un décalage de 2 ans entre sa hausse de rémunération et sa hausse d'impôt prélevé à la source. Bref, les salariés vont connaître les joies que connaissent les indépendants avec le RSI depuis déjà de nombreuses années. Les Français qui sont heureux cet hiver comme l'hiver dernier, l'hiver très doux a permis d'économiser 5,3 milliards d'euros aux Français depuis 26 mois. Les besoins de chauffage ont en effet grandement reculé dans l'Hexagone. Cessons de parler d'argent, prenons de la hauteur avec l'Europe qui vole vers Mars depuis cette semaine grâce à une fusée russe d'ailleurs. La mission européenne ExoMars a décollé à destination de la planète rouge. L'agence spatiale européenne va tenter d'y poser un module en surface de la planète Mars, où l'on constate donc que quand il s'agit de conquête spatiale, les Européens et les Russes arrivent tout à fait à s'entendre. Un autre qui s'est envolé, c'est l'archange du Mont-Saint-Michel. Ce Michel-Archange, 156 mètres au-dessus de la mer, tout en haut de la flèche de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Bah, fallait refaire la dorure, il est parti se redorer la pilule en restauration. Les images étaient spectaculaires, il a fallu un hélicoptère. Les images du retour seront encore plus spectaculaires d'ici quelques semaines. Alors il y a ceux qui prennent de la hauteur et puis il y a ceux qui prennent les devants. Nicolas Dupont-Aignan s'est déclaré déjà candidat à l'élection présidentielle de 2017 cette semaine, 48 heures après la déclaration de candidature de Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière. Et puis Jean Lassalle, ce n'est pas une blague, le député qui marche, le député qui chante, le Béarnais ami de François Bayrou, se déclare candidat à l'élection présidentielle.
La météo de votre région sur RVE.
RVE 103.7, eh bien le temps aujourd'hui c'est un temps alternant passage nuageux et de belles éclaircies. Température actuellement aux alentours de 4 à 5 degrés, 9 à 10 dans la journée. Tout de suite on retrouve le sport et moi je vous retrouve tout à l'heure à partir de 11h.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Cette fois-ci, on a regagné nos studios, on a retrouvé notre horaire initial, 10h-11h, après vous avoir fait vivre la semaine dernière, durant 2 heures, le semi-marathon de Rambouillet. On y reviendra d'ailleurs, en vous rappelant donc les résultats de ce qu'était l'événement sportif de l'année sur Rambouillet. On est aujourd'hui le printemps, donc on va parler d'un sport bien de printemps, de pétanque aussi avec nos invités. Quelqu'un d'abord que je salue, Patrick Lopez, presque un confrère, hein. Il a fait de la radio pendant quelques années du côté de Seine-et-Marne, directeur sportif du Chesnay. Bonjour Patrick.
Bonjour à vous.
Ça va?
Ça va, bien.
Et en plus vous êtes champion du monde.
Ex-champion du monde, oui.
Vous l'avez été,
oui. Oui.
Très bien. Alors vous êtes accompagné de David Offeleux, que je salue, membre de la section pétanque du Chesnay. Bonjour. Bonjour David, ça va bien?
Oui.
Pleine forme? Voilà, le micro est branché cette fois-ci. Et puis, bah, on est content de le revoir, de le retrouver. Il va nous faire un petit bilan du tournoi Destination. C'est notre ami Christian Rieux. Salut Christian.
Oui, bonjour.
Ça va?
Bonjour.
L'équipe de France, donc, battue hier, 31-21, l'équipe de France 5e, mais on fera un bilan quand même de ce tournoi qui a vu donc les Anglais enfin faire le Grand Chelem depuis 2003.
Voilà, bon, il faut regarder les choses telles qu'elles se présentent et ne pas se voiler la face, mais nous aurons l'occasion d'en discuter un peu plus tard.
Absolument, puis je salue celle qui a bien coordonné la semaine dernière les opérations en studio, c'est notre amie Géraldine. Ça va Géraldine?
Oui, ça va très bien.
On va parler pétanque aujourd'hui.
Oui, hein, avec grand plaisir.
C'est un sport qui est bien de printemps, même si la météo n'est pas encore tout à fait printanière.
Et on y joue tous en plus.
Oui, et tiens, pour la petite histoire, il y a un tournoi aujourd'hui qui se déroule au Perret en Yvelines, à quelques kilomètres de nos studios, au champ de foire, tournoi de pétanque donc organisé par la section du Perret en Yvelines. Alors on va d'abord revenir sur le semi de Rambouillet, hein, puisque je vous l'ai dit, on vous l'a fait vivre la semaine dernière, c'était la 30e édition, ça fêtait un anniversaire. Alors bon, tout s'est pas parfaitement bien passé techniquement, mais enfin on a pu quand même dans l'ensemble vous faire vivre donc cet événement 2016. On va rappeler la victoire de Felipe Ferreira de Saint-Quentin en Yvelines qui s'est imposé dans le temps de 1h09 et 3 secondes. Ça a été un véritable cavalier seul, hein, pour Ferreira qui, comme en 2011 et comme en 2013, lorsqu'il s'était déjà imposé, eh bien est parti dès le début, et ensuite ça a été une course en solitaire, véritable cavalier seul pour celui qui prépare donc le marathon de Paris. Le deuxième, c'est Antoine Rondet, des Foulées de Saint-Germain, 1h12 et 19 secondes. Le troisième, c'est Mohamed Meroun de Mantes, 1h12 et 29 secondes. Quatrième, Mathieu Scalier de la S-Série, 1h14 et 23 secondes. Et le sixième, donc, c'est un rambolitain, c'est Kevin Covin, 1h14 et 46 secondes. Première féminine, Sandrine Trénard de Saint-Germain, 1h25 et 50 secondes. Voilà. Ça vous inspire quelque chose, le semi-marathon? Vous avez eu l'occasion d'en suivre et d'en commenter quand vous étiez derrière le micro?
Ben, moi, je suis très admiratif devant ces personnes-là, parce que courir les kilomètres qu'ils font en plus sur le bitume, le matin de bonne heure, je les vois. Ouais. Bon, moi, je suis vraiment admiratif de ces personnes.
Oui, et c'est l'événement sportif sur l'année sur Rambouillet, et ce semi-marathon fêtait sa 30e édition. Donc, c'est dire, hein, il y avait 2674 engagés. Il y a eu 2244 classés, c'est dire la notoriété rencontrée maintenant donc par cette épreuve.
Oui, c'est des épreuves à la mode, hein, ça, maintenant, oui. Puisqu'il y a Paris-Versailles, il y a aussi la Chenezoise, donc oui, moi je dis bravo à toutes ces personnes.
Oui, puis ça a lancé tout un tas d'épreuves autres, hein, en parallèle dans notre région. C'est un sport important, la course à pied, notamment aussi le Smith-Bullion, hein, qui a fêté aussi son quart de siècle d'existence. Donc c'est dire effectivement que eh bien, c'est un sport très important. Dans notre région, c'est Saint-Quentin en Yvelines qui remporte l'épreuve des hommes, et puis le S-Renault qui s'impose chez les femmes. Et je l'ai dit, Ferreira donc a remporté trois fois maintenant ce semi donc de Rambouillet, 2011, 2013, 2016. Il égale Fabrice Derue, qui était venu gagner aussi à trois reprises, 2005, 2007 et 2015. On va noter que Sylvain Mouquet, qui avait commenté cette épreuve la semaine dernière à nos côtés, ouais, brillamment, eh bien lui s'est imposé une fois en 2009, et puis deux autres victoires rambolitaines, Jarry en 2008, et puis Teddy Besançon en 2012. Et puis tiens, pendant Tribune Foot, il y a 15 jours, on avait le Trail d'Auffargis. Eh bien, on va quand même vous rappeler ce résultat. C'est Nicolas Duhaille, qui est un spécialiste, hein, du team Outdoor Poly, qui s'est imposé 2h35 minutes 42 secondes devant Benoît Gandelot du même club, 2h46 minutes et 35 secondes. Le troisième, c'est Bastien Catex, 2h48 minutes 04 secondes. Quatrième, Alain Carnevillier de Aven Aventure, 2h50 minutes 7 secondes. Et cinquième, Ludovic Dilmy de Rambouillet Sport, 2h50 minutes et 56 secondes. La première féminine, c'est Aurélie Devaël de la Rumba, 3h42 minutes 29 secondes. Il y a 426 concurrents classés. Les trails, ça marche bien aussi.
Oui, les femmes, oui, c'est bien. D'habitude, c'est les hommes qui courent après, mais là, je crois que c'est les femmes qui courent après les hommes.
Voilà, et puis les femmes trail, ça marche très bien. Voilà donc pour ces deux rendez-vous. Il y aura d'autres rendez-vous importants de course à pied dans les prochaines semaines. Hein. On aura notamment la course du château le 24 avril. Ensuite, ce sera le 1er mai, le trail des Lavoirs. On aura le 15 mai, le Mont-Trail à Cernay-la-Ville, cette équipe donc par équipe de deux. Cette épreuve par équipe de deux.
Oui, le 22, c'est ça.
Le 22, ça sera donc la Forestière à Saint-Léger en Yvelines, et puis on finira avec Cernay-la-Ville, les Foulées cernésiennes, le 29 mai. Alors Christian, c'est le printemps, le feuilleton d'hiver du tour à destination s'est achevé, il est terminé. Bon, quel bilan peut-on faire pour l'équipe de France?
Voilà,
en face du micro, Christian. En face du micro. Voilà.
Le tournoi est fini, alors on peut essayer de tourner les pages, de faire un petit bilan. Alors, je reprendrai les notes que j'ai écrites. Ouais. Sous l'ère à Philippe Saint-André, j'avais pu, en son temps, signer un papier pour Midi Olympique. sous le titre « Le bonheur est toujours pour demain ». À l'issue de ce difficile tournoi 2016, je reprendrai le disque de Pierre Perret et entonnerai avec lui cette ritournelle. Pas sûr que les spectateurs du Stade de France, si peu nombreux lors du dernier France-Italie, participent tous en cœur. Ainsi, avec l'avènement du nouveau sélectionneur Guinoves et de son staff, on s'attendait à une embellie, tout au moins au niveau du jeu, par rapport au compte de résultats. Rappelez-vous, dans une interview télévisée, Yannick Bru, le coach des Avants, avançait comme objectif liminaire la victoire dans le tournoi. On allait voir ce qu'on allait voir. Le jeu se trouverait révolutionné. Dorénavant, l'option spécifiée répondrait au jeu de mouvement. Le modèle de référence étant constitué par le jeu pratiqué par l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Nonobstant, et toujours dans la succession historique, dans le prolongement du succès difficultueux face à l'Italie, les déclarations des uns et des autres allaient être pondérées et aussi ajustées. De cette manière, Jean-Frédéric Dubois, en charge des trois quarts, pouvait s'abandonner à un conventionnel, je cite, « On va prendre les matchs les uns après les autres oui. ». Guinoves, tel un Sorbonnard, un étudiant de la Sorbonne, hein, s'agace, ballon ovale, dire avec prudence « Je souhaite un tournoi le meilleur possible ». Je cite encore. Pour faire dans la marine, et à juste titre, il ne serait pas déplacé de conjecturer de la sorte, et si les vents s'étaient mis à reculer. Bon, c'est un terme de navigation, hein, quand les vents deviennent contraires, bon, on dit qu'ils reculent. Encore une fois, dirigeons notre regard sur le rétroviseur introspectif, afin de saisir au plus près les tenants et aboutissants. Contre l'Italie, on peut dire que ce fut juste. La victoire ne tient qu'au drop raté de Parissé en fin de match.
Oui, on va rappeler 23-21 pour la France devant l'Italie. Ça a été la plus courte victoire obtenue au Stade de France, Christian, hein, face à l'Italie.
Alors, face à l'Irlande, en dépit d'un engagement physique plus substantiel, la réussite ne tient qu'à un fil, 19. Ce n'était pas le Pérou.
Oui, 10 à 9 hein, face à une équipe d'Irlande qu'on n'avait plus battue depuis 2011. Hein.
Voilà. Oui. Et puis, il y a eu le Pays de Galles et l'Angleterre pour nous rappeler qu'avec William Webb Ellis, bon, l'inventeur du rugby, hein, et Ptolémée, c'est le célèbre géographe grec qui a qualifié la terre de rugby, du terme de Grande-Bretagne, c'est lui, hein. Le célèbre géographe grec, qui a la terre du rugby fixée au centre de l'univers, primordiale, musclée, du rail, cette terre de rugby. Finalement, on a de la chance de ne pas décrocher la cuillère de bois. Convenons de concert avec le journal L'Équipe que Guinoves connaît un début de mandat compliqué.
Mais on s'y attendait un peu quand même.
Oui, on s'y attendait un peu, mais enfin, on ne s'attendait pas à si peu. Bon. Alors, fini les tchatchs, il s'agit de mouiller le maillot, de gagner des matchs. Dans un bilan, on ne retient que les matchs gagnés. Finir deuxième, troisième, bon, ça ne signifie pas grand-chose. Alors, condition sine qua non. Dépasser les yakas, les faucons, les approximations, les croyances et bien sûr les incantations. Depuis un certain temps, on n'entend que des incantations sur la méthode Noves, sur le jeu à la française, sur le French flair, bon, etc. Ce sont des choses dépassées qui ne veulent plus rien dire si on les analyse de près. Bien entendu, en tant qu'éducation enseignant d'éducation physique et éducateur de rugby, je ne me rallierai pas à l'affirmation de Michel Bonnet. Bonneau, c'est un journaliste de l'équipe.
Pierre-Michel Bonneau.
Voilà, Pierre-Michel Bonneau. Dans un article, il rappelle la théorie directement inspirée du Kolkhoz Fleury, selon laquelle seul le système permet aux individus de s'épanouir. Alors, je rétorquerai que c'est quelque chose d'inexact et équivoque. Et à cet égard, je donnerai deux exemples. Si l'on ne possède pas de grands musiciens, on a beau avoir le chef d'orchestre et la partition la plus élaborée, on n'aura pas de la grande musique. L'Afrique du Sud, qui à un moment avait opté pour le jeu de mouvement, n'a eu que des résultats insignifiants. Il a fallu qu'ils reviennent à un jeu conforme à l'esprit sud-africain et à la façon de pratiquer les Sud-Africains pour être à nouveau performante. Donc, ce sont les hommes qui forment les systèmes. Bon, et en politique, bien sûr, on ne fera pas cette démonstration. Des gens de peu de valeur ont peu de chances de réussir. Alors, tout le problème du rugby français est celui-ci. Il s'agit de former des joueurs de qualité. Et si possible, des joueurs des stars du rugby. Bon, on s'aperçoit que dans un sport comme le football, le Paris Saint-Germain, bien sûr, il faut de l'argent, hein, avait des stars, eh bien, il a fait une équipe de très haut niveau. Barcelone, avec Neymar, ce sont des étrangers, Messi, c'est pas un Espagnol, et Sanchez encore moins, les trois réunis 560 millions, a réussi à faire une attaque de feu qui peut battre n'importe quelle équipe.
Bon, raison.
Ce sont les grands joueurs qui forment les grandes équipes. Et pour l'instant, on peut dire qu'on n'a pas de grands joueurs. La preuve, c'est qu'on va chercher à l'étranger les joueurs qu'on n'a pas. Bon, alors, on pourrait discuter là-dessus, hein, mais on va mettre un bémol et on va dire que Noves et son équipe ne sont ni des golems. Vous savez ce que c'est, hein, c'est cet individu mythique qui est intouchable, inébranlable, infaillible, etc., et qui a une force au-dessus de la nature. Ni Harry Potter. Voilà. Donc,
ouais, mais alors, à suivre. Ça veut dire qu'on n'a pas, une génération spontanée. Si je comprends bien, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà.
On n'a pas cette génération spontanée.
On n'a pas des joueurs.
Alors, est-ce que c'est pas le championnat aussi?
Oui, il faut dire qu'il y a plusieurs raisons. Hein.
Si, on a un championnat qui, avec beaucoup d'étrangers, très relevé, ça laisse peut-être pas la place à l'éclosion de jeunes Français.
Oui. Mais moi, je crois que faut retourner à nos valeurs réelles, oui, c'est-à-dire au rugby de base dans les écoles, et puis d'arrêter d'importer des étrangers, parce que là, voilà, on est en train de tout bouffer.
Alors, on a un championnat qui est relevé, qui est de qualité, mais qui laisse plus la place à des jeunes talentueux qui sont peut-être obligés de faire banquette ou d'aller jouer carrément ailleurs.
D'abord, j'avais un petit truc là-dessus. Je crois que le dénommé Cocotte est un des joueurs étrangers.
Oui.
Un nom comme Cocotte, un joueur étranger, ça me fait rigoler, moi.
Oui, mais c'est un faux problème. Parce que si l'on prend la Nouvelle-Zélande, les fameux All Blacks, qu'est-ce qu'ils ont? Beaucoup de Samoans, de Tongiens, de gens qui ne sont pas de leur pays. Bon, si on prend l'Angleterre, il y a le capitaine. Bon, c'est un joueur de la Nouvelle-Zélande. Bon, si on prend l'Irlande, il y a des joueurs étrangers. C'est pas le problème. Et puis, de toute façon, on va l'arrêter, Bosman. Il est impossible de se passer d'étrangers. Bon, ça serait contraire à la législation. Donc, il faut faire avec. Il y a un marché. Il s'agit de choisir les meilleurs joueurs. Et pour ça, il faut aussi les former.
Oui, mais là, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que si on se retrouve en équipe de France avec des joueurs étrangers, on perd de nos valeurs. Moi, je dis que Larry Bosman, déjà, je suis contre 100%. Deux étrangers dans une équipe, je veux bien. Mais en mettant les étrangers, on ferme la route à nos jeunes.
Oui,
à la base.
C'est ça le problème.
Il est là, le problème.
Le problème, il est peut-être là, oui.
Alors, il faut voir les choses avec le macroscope et pas avec le microscope. Il faut voir que le sport a évolué. Et plus on va vers le haut niveau, plus le sport devient un spectacle. Ça ne signifie plus rien, le sport. Maintenant, ce sont les télévisions, c'est l'argent, c'est le pouvoir qui font que le sport est le reflet d'une société. Alors, on pourra discuter, hein, on pourra mettre le frein à main. Mais C'est une donnée essentielle d'aujourd'hui. Le sport devient un spectacle.
Il faut dire non. Il faut dire non simplement pour l'argent.
Voilà. Donc, il faut d'abord satisfaire les télévisions, satisfaire les spectateurs pour que le sport continue à vivre.
Oui, mais il y a quand même des premiers et des derniers. Les Anglais ont le même phénomène. Oui. Ils sont premiers, ils font le grand chelem, ils gagnent le tournoi.
Oui.
Pourquoi ?
Mais parce qu'ils ont une culture et une formation qui est différente de la nôtre. Et ils sont plus pragmatiques, voilà. Ils font moins de fautes.
Je pense que c'est ça, hein, parce qu'on a un peu énuméré l'équipe de France. Elle est battue par le Pays de Galles 19-10, elle ne fait pas un mauvais match, mais il y a le pragmatisme gallois qui fait la différence. Et puis hier, contre l'Angleterre, on ne peut pas dire que l'équipe de France a été ridicule. Elle est battue 31-21 face à une équipe qui est pluraliste, qui marque 3 essais. Voilà. Il n'y a que contre l'Écosse où l'équipe de France là, a un peu manqué quand même. 29-18, on va rappeler des fêtes où là, les Français ont fait beaucoup trop de fautes d'indiscipline, ont été assez incohérents dans leur jeu. Et finalement, ils ont presque plus perdu ce match que l'Écosse qui l'a gagné.
Moi, je dis qu'il faut laisser Noves faire le temps, former ses jeunes. Moi, j'ai confiance en ce monsieur, il a fait ses preuves à Toulouse.
On sent quand même un peu plus d'intention.
Voilà, tout à fait. Donc, laissons-le travailler tranquillement, laissons-le former des jeunes. Et je pense que d'ici 3-4 ans, on aura une belle équipe de rugby.
C'est le manque de ce groupe, peut-être d'expérience à ce niveau, de ce groupe, Christian ?
Oui, bon, c'est sûr qu'il y a un manque d'expérience, mais enfin, ça fait X années qu'on dit il faut laisser le temps, il faut prendre le temps.
C'est vrai que depuis Saint-André, ça fait 5 ans.
Ça fait
c'est vrai que,
10 ans.
On n'a pas avancé d'un iota. Non.
On va se donner du temps.
On a eu un grand chelem avec Lièvremont quand même. Mais,
avec Saint-André, je crois qu'on a fait machine arrière. Pour moi, hein, je crois qu'il n'a pas utilisé les bons bonhommes. Hein. Il y avait...
Oui, mais c'est les mêmes là, pratiquement.
Et oui, mais...
C'est les mêmes. Donc ça veut dire qu'on n'a pas cette génération.
Moi, je suis sûr qu'on les a, ces jeunes-là. Je les regarde jouer. Bon, je suis pas un top du rugby, mais j'adore tous les sports. Mais je crois que moi, j'ai confiance. J'ai confiance en ces jeunes. De toute façon, l'avenir, c'est les jeunes. Hein.
Oui, de toute façon, il faut avoir confiance, parce qu'on a un bon réservoir. Si on se réfère aux résultats des jeunes des moins de 20 ans, qui ont passé 40 points aux Anglais. Ouais.
Et les féminines, alors
Alors, les féminines, c'est une autre question.
Et voilà, elles montrent l'exemple.
Mais elles sont là.
Elles sont là. Et oui, voilà. Elles montrent l'exemple. Moi, je dis bravo, chapeau bas.
Oui, ça fait partie du package.
Alors, on va rappeler, Christian, quand même, que l'Angleterre donc, remporte ce tournoi 2016, voilà. Donc 10 points.
C'est en faisant le grand chelem.
Oui, c'est le 13e grand chelem de leur histoire, et c'est le premier depuis 2003. Donc le Pays de Galles termine 2e, 7 points, 3e l'Irlande, 5 points, 4e l'Écosse, 4 points, 5e l'équipe de France, donc 4 points. On est dans les classements Saint-André, hein, entre la 4e et la 6e place depuis 2012, et puis le 6e et dernier, c'est l'Italie, donc 0
mais
points.
Mais si on perd contre l'Italie, on finit dernier. Hein.
Oui, mais l'année prochaine, on sera premier, on fera Cocorico.
Très bien.
Alors, il faut rajouter une chose. Hein. Cette année, on avait un tournoi favorable, puisqu'on avait trois matchs à domicile.
À la maison,
Et on recevait l'Angleterre. L'année prochaine, on se déplacera
On va jouer en Irlande et en Angleterre.
En Irlande. Non, ça sera plus
très bien. Mais on finira notre saison, on va le dire quand même, pour le rugby contre l'Argentine. Il y aura deux tests match donc au mois de juin, et ensuite saison classique qui repartira avec deux beaux tests aussi au mois de novembre. Ça sera l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui viendront donc au Stade de France. Ouais. Voilà. Merci Christian de nous avoir fait vivre ce tournoi 2016. À très bientôt.
Hein. Voilà, merci.
Voilà. Allez, la pub, la musique, et ensuite on passe à la pétanque.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11. Au cœur de la vallée de Chevreuse, les Salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les Salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h, un buffet dînatoire à volonté. Boissons et soirées nightclub incluses à 45€. Le dimanche à partir de 11h, un brunch avec après-midi dansant et animation pour enfants à 39€, enfants 15€. Et un thé dansant de 15h à 18h avec son buffet gourmand à 15€. Les Salons Léopold, la vallée à Cernay-la-Ville. Réservation et information au 01 34 85 20 02 et sur www.salonsleopold.fr.
Nature et Bébati Service. Entreprises situées à Vieille-Église interviennent dans toute l'Île-de-France et proposent différents services pour tous vos travaux d'intérieur et d'extérieur. Nature Service, spécialiste de vos espaces verts avec ses équipes de paysagistes et élagueurs diplômés. Bébati Service, entreprise tout corps d'État répondra à tous vos travaux de bâtiment. 50% de déduction d'impôts possible sur de nombreuses prestations. Un conseil, un devis gratuit. Contactez Nature et Bébati Service au 01 30 50 06 96 ou sur le www.natureservice.fr.
La CIM Verte et la Gage à Vieille-Église vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin? La CIM Verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La CIM Verte, votre professionnel de l'élagage. Ferme de la Quaqueterie à Vieille-Église, proche de Rambouillet. 01 30 46 23 36 ou www.lacimverte.com.
RVE. C'est aussi sur internet. www.radio-rve.com. RVE.
Là c'est dingue. Là c'est dingue. Là c'est dingue. Là c'est dingue. Laisse-moi là, j'atterris. J'avoue, là c'est pas mal. On me dit que je suis un génie. Un conseil, ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau toute bronzée. Bébé, me dis pas que tu me kiffes, car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Et je mange, j'aille, j'aille, j'aille. Mec, regarde ta go, depuis tout à l'heure, elle fait que me fixer. Oh la, que t'as le salamello, je veux juste des kisses qui fait glisser. Perdre et ban classico, je ne joue pas, pourtant t'es bluffé. Et je mange aïe, aïe, aïe. Je traîne en gamos, je sens une main passer dans mon cou. Je suis accompagné d'une bastos, je suis en love et oui je l'avoue. Elle veut me faire goûter son gloss, je pense pas que je vais donner ma joue. Je crois qu'elle veut me faire un gosse. Et je mange jaille, jaille, jaille. Là c'est dingue.
Parler pétanque comme promis, hein, avec donc nos deux invités, Patrick Lopez, directeur du Chenet. Patrick, la pétanque, c'est rentré dans votre vie comment ?
Alors moi, c'est une petite histoire très rocambolesque. En 75, j'ai eu un accident du poignet. Donc, je me suis fait opérer, mauvaise opération. On devait me couper la main. Je me suis retrouvé à Garches chez le professeur Judet qui m'a mis la première prothèse de la main. Donc, avec des os en plastique et tout. Et en allant chez mon kiné à Meaux, il y avait des joueurs de boules, j'arrivais toujours en avant, j'allais voir les joueurs de boules en face. Et j'ai dit à mon kiné, mais si je jouais à la pétanque, est-ce que ça serait bon pour l'éducation ? Il m'a dit oui. Donc je suis rentré dans ce système, j'ai pris ma licence, j'ai analysé le jeu et j'ai dit aux gars, vous comprenez rien. Alors tout le monde s'est moqué de moi. Et je leur ai dit, moi, dans 10 ans, je serai champion de France. Et 10 ans après, j'étais champion de France, champion du monde. Voilà, j'ai tout compris.
Ouais, d'accord, champion de France, champion du monde. C'est-à-dire qu'on arrive à vivre de ce sport quand on arrive à ce niveau-là ?
Il y a quelques années, on arrivait parce qu'on avait des sponsors, dont la boule au but, qui nous rémunéraient tous les mois. Mais il faut être titré pour cela. Et puis après, vous êtes invité dans tous les pays de la planète.
C'était ce que nous avait dit Philippe Quintet, qu'il arrivait à vivre de son sport à travers tous ses partenaires.
Oui, bah, Philippe Quintet est un grand joueur, il a quand même 14 titres de champion du monde, c'est un phénomène, je l'ai connu au début de sa jeunesse. Bon, c'est un garçon charmant, oui c'est vrai, on arrive à en vivre, mais bon, disons que en vivre complètement, non.
Alors quand on devient comme vous un champion de la pétanque, on y passe combien de temps par semaine, par jour, et on est aux quatre coins du monde toute l'année ?
Oui, non, par semaine, vous allez rigoler. La pétanque, c'est vous avez le don ou vous n'avez pas le don.
Ouais, il faut s'entraîner quand même.
Non. Les tireurs, ils sont à droit ou pas à droit. On ne sera jamais un grand
ça
tireur.
Ça ne travaille pas, ça ?
Ça ne peut pas se travailler. C'est l'adresse et la concentration. Au pointeur, le pointeur, là, ça se travaille. Là, il n'y a pas de souci. Là, on peut travailler.
Oui. Et l'adresse, la concentration, ça se travaille aussi, la concentration.
Ça se travaille aussi. Alors, moi, je vais vous l'expliquer. J'ai eu une école de pétanque en Seine-et-Marne avec 70 enfants. J'ai sorti deux champions de France. Donc c'était pour moi une récompense, un travail énorme.
Mmh. L'adresse, la concentration, on l'a, c'est un peu inné dès le départ.
Oui,
on arrive à le percevoir comme ça quand on débute dans ce sport.
Oui, on voit tout de suite les grands tireurs au geste du bras. Là on voit bon des tireurs d'exception, vous savez, en France il y a X milliers de joueurs de boules, des tireurs d'exception, il y en a 5. Et moi, j'ai eu la chance d'être champion du monde avec un tireur d'exception qui, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé. Il s'appelle Didier Choupet, c'est mon gendre. Un tireur vraiment exceptionnel. Et, moi, je l'ai vu ne pas manquer une boule pendant le week-end.
D'accord. David, vous avez rencontré Patrick comment ?
Bah, nous, on s'est rencontrés sur le terrain.
Ouais.
Et moi, j'étais déjà au Chenet et Patrick nous a rejoint parce que bon, bah, je pense que la passion, il l'avait. Et on voyait un pauvre monsieur nous regarder. Bon, certains d'entre nous le connaissaient parce que bon, champion du monde, ça se respecte. Hein.
On signe des autographes dans la rue. Hein.
Bien sûr, tous les jours, c'est ce qu'il fait. Il a été harcelé en venant même.
Ouais.
Non, donc voilà, Patrick nous a rejoint et puis bon... Il coach l'équipe en Coupe de France et nous apporte son expérience.
Vous avez toujours été au Chenet, Patrick ?
Ah non, moi c'est une histoire.
Oui, parlez-nous un peu de votre
vie. J'étais en Seine-et-Marne, je suis parti dans le sud pour jouer dans le sud avec deux garçons.
C'est une ville de pétanque.
Côté de Toulouse.
Ouais.
Mais quand j'ai vu la tournure des événements avec ces garçons qui ne pensaient que, j'ai dit non. Et puis la vie a voulu que je rencontre une charmante personne au Chenet. Donc j'habite le Chenet et la première chose que j'ai cherchée au Chenet, c'est pas l'église ni la piscine, c'est le terrain de boule. Et là j'ai rencontré un ami de 30 ans, Olivier Derignier, qui est mon président. Et puis j'ai trouvé le club du Chenet sympathique, un garçon très sympathique comme David, comme bien d'autres. Voilà, des joueurs qui aiment la pétanque. Chose que c'est rare sur certains. Par exemple, le sérieux de David, j'apprécie quand hier il me dit c'est à quelle heure le concours, est-ce qu'il faut les tenues, voilà. Là j'apprécie beaucoup. On sent que ces garçons veulent jouer à la pétanque.
Alors on va dire au grand public, à ceux qui nous écoutent, que la pétanque, arriver à ce niveau-là, c'est un véritable sport. Hein. C'est pas de la détente, c'est plus du loisir.
Non, il faut être quand même.
Bon, c'est un peu comme le ping-pong et puis le tennis de table, c'est pareil. Hein.
Voilà. Non. Vous savez, les grands joueurs que je côtoie dans le milieu de la pétanque. Donc, ce sont des sportifs,
bien sûr.
De très grands sportifs. Tout est là parce que là, on se dit oui, bon, on va faire un concours à droite, à gauche, on va faire 2-3 parties. Comme vous faites un concours national, vous faites 13 et 14 parties. C'est énorme, c'est fatigant, c'est épuisant. Oui. La concentration, ça demande beaucoup d'une bonne condition physique.
Alors, c'est ça qui m'intéresse, la concentration. Comment on la travaille dans les jours qui précède et la condition physique. On fait du footing, on fait du vélo, on fait d'autres sports.
Alors, footing, vélo.
Natation.
Alors, natation et tennis interdits pour les bras.
D'accord. Ah ouais, d'accord.
Ça peut le source.
C'est intéressant. Ouais.
À part une exception, comme vous dit encore mon gendre, avant la finale du championnat du monde, était dans la piscine une heure avant. Mais là, on parle d'une exception. Mais c'est pas bon pour la pétanque. Non, la condition physique et puis la concentration, se fixer un objectif, ne pas faire abstraction de ce qui se passe à côté.
Ouais, c'est ça, la difficulté. Alors, quand on rentre comme ça sur le boulodrome, il faut justement faire fi de tout ce qui se passe à côté. On y arrive, parce que comment il est le public de la pétanque ? Il est plutôt silencieux, public tennis, enthousiasme Big Foot?
Allez, globalement, mauvais.
Mauvais?
Oui. Oui, oui, bah, il y a les supporters. Oui. Bon, j'admets qu'il y a les supporters. C'est logique. Mais moi, le vrai public se tait. Moi, j'ai une histoire à vous raconter au championnat de France au Bourget. C'est le seul championnat de France où ils avaient appelé ça le petit Roland-Garros.
Ouais.
15 000 personnes.
Ouh là là.
Et moi, je dois tirer une boule pour pas perdre.
Ouais.
Donc, je suis dans
oh
le rond.
Là, oh, la pression.
Et je me mets dans le rond, et je baisse les yeux comme ça, et je dis, mais ils me regardent tous ces cons-là. Voilà. Comme ça, hein, je dis. J'ai frappé la boule, en l'air, j'ai dit, ça y est, j'ai fait carreau. Les gens ont hurlé, se sont levés, et moi, à ce moment-là, c'est la seule fois où ça m'est arrivé dans la vie, j'ai senti la barbe qui me poussait, et le sang qui coulait dans mon corps. Mmh. Et ça a fait une impression extraordinaire.
Mmh. Et alors, entre vous, il y a de l'intox aussi qu'on voit entrer sur le boulodrome?
Oui, bien sûr, oui. Oh, bah, nous, vous savez, quand je reviens à la finale du championnat du monde, quand t'es Monégas, quand on rentre sur le terrain, ils nous disent, on sait pas comment vous battre. Là, je vous dis, on était gonflés à 200%.
Vous jouez en solo, en duo, en triplette, comment ça se passe?
Pour moi, le plus beau, c'est la triplette.
Ouais.
Bah, trois ententes de trois potes. Sachez qu'à la pétanque, que l'amitié, c'est 50% de l'équipe. Et quand on joue à la pétanque, que l'on joue avec quelqu'un, j'ai une politique. Si je joue avec quelqu'un, c'est que j'accepte ses défauts et ses qualités. Si je joue avec David, qui met les boules à 2 mètres, je dis David parce qu'il est à côté de moi, ouais. Ou quelqu'un d'autre, je ne lui dirai rien.
Ouais.
Sinon, je ne joue pas avec lui.
Il n'y a pas d'engueulade contre vous.
Pardon?
Il n'y a pas d'engueulade?
Ah non, absolument pas. Non, 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 non.
Il n'en faut surtout pas.
Mais non, c'est pas bon, ça. Vous savez, les gars, j'ai perdu à cause du pointeur.
Ouais.
Non, attendez, non, moi je ne suis pas d'accord.
Oui, il faut que ça reste ludique.
Oui, bien sûr.
Quoi qu'il arrive.
Alors, c'est un sport où on a eu l'occasion de suivre certaines compétitions. Il y a beaucoup de femmes qui font la pétanque.
De plus en plus,
oui. Oui, oui.
Nous, hier, on jouait en Coupe de France.
Oui, oui.
Pour le principe Coupe de France. C'est 6 joueurs, dont une féminine.
Mmh, d'accord.
Et c'est un phénomène qui marche de plus en plus, parce que cette année, il y a combien? Il doit y avoir 2800 clubs inscrits en Coupe de France.
En général, elle pointe Non, voilà. Enfin, vous avez compris, David. Oui.
Elle tire. Ah, nous, on en a rencontré une dernièrement au National d'Elbeuf, là, qui joue en équipe de France. Je peux te dire qu'elle tire.
Ouais, d'accord.
Et bien.
Et c'est plus la spécialité, alors?
Non, après, c'est en fonction du joueur avec qui elle joue. Si elle joue avec l'exception comme le gendre de Patrick, elle pointera parce que c'est un phénomène. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas de jouer avec une femme et qu'elle tire de tête, hein, si elle tire très bien.
D'accord.
Alors, pour le grand public, ça se passe comment? Quelqu'un qui, ce matin, écoute cette émission, dit, tiens, je vais faire de la pétanque, je vais prendre une licence, je vais chercher un club de pétanque. Bon, il y en a sur Rambouillet, il y en a sur... Le Perret. Ensuite, il participe à quel type de compétition? Ça se passe comment? C'est open? C'est mélangé toute catégorie, tout âge?
Ben oui, c'est tout âge. Vous avez catégorie minime, cadet, junior, senior, vétéran.
Mm-hmm.
Il suffit de prendre une licence,
oui.
de venir au club et puis de lier d'amitié. Moi, je vois, j'ai fait inscrire des personnes âgées, des jeunes, tout ça. Je les regarde jouer et après je leur explique leurs défauts, leurs qualités et je les analyse aussi. Je dis, tiens, celui-là pourrait jouer avec celui-là.
D'accord.
Voilà, mais c'est l'amitié. Le départ, c'est l'amitié, puis après, ça vient tout seul.
Ouais, mais... À quel âge on peut commencer à jouer quand on est enfant?
Alors moi, les enfants, je les prenais à l'âge de 6 ans.
6 ans.
6 ans, oui.
Donc là, on donne un côté ludique, quoi. À la pétanque, on essaye peut-être de leur donner le côté ludique.
Alors moi, ce qui m'a fait marrer à la pétanque, c'est que quand j'ai commencé avec 12 enfants.
Oui.
Et après, ça fait boule de neige, forcément, le titre de champion du monde. Les enfants viennent.
Bah, oui.
Quand vous avez un champion du monde, ils viennent tous. Alors donc, je suis allé dans les écoles, autour de Meaux, tout ça, et puis après 70. Alors moi, j'apprenais déjà le règlement. La première chose.
Mmh.
Et je me souviens qu'entre le club où j'étais et le terrain de boules, il y avait une grande avenue. Donc, je les classais, et les enfants, sur les questions sur le règlement, je leur donnais des points pour avoir des coupes. Les enfants, c'est des coupes. Mais je faisais un petit peu du social, parce que je disais, on va au terrain, et s'ils traversaient hors des clous, je leur enlevais des points. Et ce qui était marrant, la pétanque, c'est que je leur disais, qu'est-ce qui est tireur? Tous, ils étaient tous tireurs.
Ouais.
Tous, sans exception.
Ils ne voulaient pas de pointeur?
Ah non, ils ne voulaient pas de pointeur.
Ouais.
Alors moi je les ai un petit peu lancés parce que j'ai fait venir TF1, j'ai fait une cassette avec Canal Plus avec les enfants, et puis ça les a mis en condition. Hein. Mmh. Puis bon, c'était un travail qui me plaisait beaucoup et j'ai eu beaucoup de satisfaction.
Est-ce qu'il y a des boules, du matériel et un terrain adapté pour les jeunes? Alors, en fonction des âges. Hein.
On voit le prof de l'ancien prof de gym. C'est bien.
J'ai fait partie de l'équipe qui a mis en place le mini tennis. La Fédération française de tennis, nous avons, entre guillemets, inventé le mini-tennis. Donc, on avait des balles en mousse, on avait des balles demi-pression, et des terrains réduits, de façon à ce que les élèves puissent réussir. Parce que si on ne réussit pas, on ne peut pas progresser. Hein.
Bon. Pour la pétanque, alors, pour les enfants, forcément, il y a des boules, il y a un diamètre, le plus petit diamètre possible, parce qu'après, sinon, avec les grosses boules, ils ont la main qui tourne.
Oui.
Et pour les terrains,
eh ben, le poids,
c'est 640, 650 grammes. Et après, au fur et à mesure que l'enfant pousse, on agrandit le poids et le diamètre. Mais faut pas croire, hein, les joueurs de boules disent des grosses boules, plus c'est lourd, meilleur c'est. Moi, je dis que c'est la grosse connerie. Plus léger, meilleur c'est. Parce que j'ai vu des expériences, quand la boule qui est lourde tombe sur un impact, elle va beaucoup plus loin qu'une boule qui est légère. Voilà. Puis pour les terrains, c'est simple, hein, c'est terrain simple, cailloux, voilà.
Ouais, justement, est-ce que ça a beaucoup changé d'abord? Et les boules et les terrains?
Oui, les boules, il y a eu beaucoup d'amélioration sur les boules. Maintenant, il y a les boules tendres, des boules très tendres. Bon, les personnes qui jouent avec ces boules, ça dure 6 mois.
D'accord, ok. Donc vous, qui avez été champion du monde, qui fait de la pétanque tous les jours, toutes les semaines, combien de jeux de boules vous avez?
Alors moi, j'en ai, une trentaine.
Trentaine, ouais. Et il y a des boules fétiches qu'on garde fatalement.
Ouais, c'est du championnat du monde.
Ah bah ouais. C'est un peu comme les raquettes pour le tennis.
Voilà, hier j'ai sorti les boules de champion de France, champion du monde, que je prêtais à mon président. Oui. Voilà, il m'a fait marrer. D'ailleurs, il m'a raconté, il m'a dit, oh là là, j'ai la pression, je joue avec les boules d'un champion du monde. Non, mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'on garde en soi. Hein. Vous savez, j'ai deux maillots, comme je dis. Hein. La pétanque, c'est le seul sport où tout le monde se prend pour un champion du monde. Vous savez, deux types qui font deux carreaux, champion du monde. Et il y a les jaloux.
Oui.
Hein, il y en a qui vont dire, ah bah oui, Patrick Lopez était champion du monde parce qu'il avait un tireur d'inscription. Mais j'ai jamais vu des personnes gagner un concours à 4 boules contre 6.
Mmh.
Voilà. Oui. Moi, je leur dis à ceux-là, trouvez l'amitié avec des copains, et puis après, vous verrez.
Donc, vous avez été champion du monde en solo, en duo, en triplette?
En triplette.
En triplette, oui. D'accord. Oui. Donc, quelqu'un qui veut s'inscrire, lui, il peut commencer en solo, en duo, en triplette, il choisit ce qu'il veut, il ne se spécialise pas?
Il y a un championnat tête-à-tête.
C'est pour ça, oui.
Il y a un championnat doublette, il y a un championnat triplette, il y a un championnat vétéran, d'accord, championnat de France. Voilà, il y a un championnat mixte.
Et là, il peut participer aux
compétitions
qu'il veut. Si c'est jouable dans le calendrier, il peut le faire.
Bien sûr.
Il n'y a pas de contrainte. Vous avez un classement type golf ou tennis?
Alors, on a
un
classement par points. Classement par points dans le département et au niveau national.
Mm-hmm.
Voilà, c'est un nombre de points. Un concours vaut 4 points, 3 points ou 5 points.
Et après, vous avez 3 catégories, à savoir promotion, honneur, élite.
D'accord. Alors après, aller plus loin, ouais.
En fonction, donc, la première année, on commencera promotion.
D'accord.
Et en fonction du nombre de points qu'on marquera dans l'année. Bon, cette année, les règlements ont été un petit peu avantageux. Donc, vous faisiez 10 points dans l'année. Donc, 10 points, ça équivaut à, aller, on va dire, à 2 victoires de concours, plus une demi-finale dans l'année. Mmh. Donc, c'est tout à fait jouable. Vous passiez la catégorie honneur. Et pour les honneurs, pour monter en élite, il y avait 2 solutions. Soit gagner un championnat, soit marquer plus de 50 points dans l'année.
D'accord. Ok. Et les matchs ont lieu en 13 points, c'est ça?
13 points. Moi, j'ai fait la finale championnat du monde en 15 points.
Oh là là, là.
Voilà.
Donc, on peut gagner 15-14, quoi.
Oui, nous, on avait gagné 15-0, mais bon, enfin,
15-0?
Ça. 15-0? Ah oui.
15-0?
Oui, oui. Ouais. Vous voulez que je vous raconte une histoire, la demi-finale du championnat du monde?
Vous êtes là pour ça, racontez-nous plein de
choses. Championnat du monde, demi-finale contre la Tunisie.
Ouais.
Donc, un ami était venu avec nous au Maroc et nous véhiculait. Les femmes et enfants venaient avec l'autocar de l'hôtel. Et donc, nous, on part en avance, on joue la Tunisie, les femmes arrivent, on jouait à 10h, à 10h07, on était reparti. Les femmes, elles disent, mais où ils sont? Quand ils sont arrivés, parce que nous, on était reparti à l'hôtel. Et c'est fini, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné, on a gagné en 3 mains. Voilà, ça a duré 7 minutes.
Oh, oui, d'accord. Oui. Et les matchs les plus longs, ça peut durer en combien de temps?
La plus grosse partie que j'ai faite, c'est à Libourne. On a fait une partie qui a duré 5h15. 5h15.
Wow.
Ouais, mon gendre a tiré 11 fois le bouchon pour ne pas perdre.
Psychologiquement, il va falloir rester carrément dedans. Hein.
C'est surtout qu'après, il y a encore plein de parties à faire. Quoi.
Voilà, après, on en a fait une qui a duré 4h30. Hein. On a fini de jouer, c'était 4h30 du matin, et à 8h, on jouait les demi-finales. Mais bon, faut dire que dans cette partie, on était mené 9-3. Mon Jean a tiré 11 fois le bouchon pour pas perdre. Et moi, je me suis retrouvé 12-12, tiré gagné, manqué perdu. Il m'a dit, prends ton temps. J'ai dit, il y en a marre, j'y vais vite fait. Voilà. Bon souvenir.
Ouais. Il faut une tenue stricte en compétition. Il faut une tenue stricte en
compétition. Moi, je suis un adepte à ça, parce que voilà. On dit que la télévision, maintenant la télévision vient, il y a l'équipe 21, il y a Beansport, il y avait Canal.
Canal en montré, ouais.
Voilà, c'est bien. C'est, en plus, il y a un garçon sur l'équipe 21 qui s'appelle Jean-Luc Robert, que je connais bien, qui est un joueur. Lui, il connaît son truc.
Et il y a la Marseillaise aussi, avec Daniel Leclerc, Marie-Laure Gris.
Ouais, Daniel, que je connais bien, j'ai joué avec lui, avec Daniel. Oui. Bon, la Marseillaise, on va dire que c'est plutôt. C'est comme pour les handicapés, un voyage à Lourdes. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est la Marseillaise. Moi, une année, je suis allé à la Marseillaise et personne ne m'a demandé pour jouer. Je me suis retrouvé à jouer avec un monsieur qui s'appelait Ortega, qui avait 72 ans et une femme. Et on se retrouve en huitième de finale devant les caméras de FR3. Et le gars qui jouait avec moi, Ortega, qui est un pur Marseillais, il passait le premier, deuxième tour, il perdait tout le temps. Et là, on a joué devant les caméras, tout le monde passait, mais Ortega était toujours là, Ortega était toujours là. Et sa femme me dit, va faire une crise cardiaque, il était comme ça. On menait 8-4, je me souviens tout le temps, 8-4, il arrivait 4 boules en, il a eu toujours 4 fois 2 boules en main, le point par terre, on n'a jamais marqué, il était en transe, quoi. Mmh. Voilà, mais j'ai fait un heureux jour-là.
Ben oui, bien sûr. Alors vous avez joué avec naturellement les people à Saint-Tropez, les Patrice Lafont, les Eddie Barclay, les Robert Chapat.
Oui, voilà, ouais. Eddie Barclay donc m'invitait tous les ans à passer là-bas chez lui une semaine de rêve à Ramatuelle.
Salvador.
Avec Henri qui était mon ami. Bah oui. Henri était mon ami. C'était un garçon extraordinaire.
On l'avait croisé une fois, oui.
Ouais, ouais. Mmh. Mais bon, là-bas. Mais vous savez, Eddie Barclay adorait la pétanque. C'était un fanatique, il aimait pas perdre.
Ah oui?
Non, non, c'était un gagneur.
Mmh. Ah justement, il y a des contestations comme ça sur les terrains. Entre armées, vous avez dit qu'il y avait des bagarres. C'est quand même assez incroyable, des bagarres à la pétanque.
Ah, il y a des régions de France où c'est un petit peu chaud. Moi, je vais vous raconter... on va dire que j'ai vécu beaucoup de choses l'année dernière. Je vais jouer à Cabreton au souvenir d'un monsieur qui m'a un petit peu été mon professeur, qui est le monsieur Foyot Mario, et son fils qui était un grand joueur au niveau mondial. Et tous les ans, je vais faire son souvenir à Cabreton. Et l'année dernière, je joue avec un petit jeune et un ami. On monte une équipe comme ça. Et on voit trois types arriver, voilà, un peu chaud. Bon, gentil, mais il nous charrie un petit peu. Bon, pas grave. Il nous mène 9-3, puis moi, j'ai pas répondu. Mais j'ai répondu avec les boules. Et voilà, tout simplement. Et à 12-9, j'ai dit à mon pointeur, ben mets le 13e. Et le gars va le voir, il a dit, voilà, si tu mets le 13e, je t'égorge.
Oh là là.
Voilà, c'était comme ça. Oui, il y avait trois arbitres officiels, le délégué sur la partie. J'ai dit, écoute-le, mais pas, moi je vais le mettre, on verra bien. Et je l'ai mis, bon. Puis il s'est rien passé.
Vous êtes
voilà.
Toujours là.
Voilà. On est quand même loin de penser, vous voyez, on parle toujours du foot.
Oui, mais ça, c'est
des... Mais, on est loin de penser que des sports...
Oui, c'est des exceptions, il y en a très peu. Hein. Ouais, il y en a très peu.
Heureusement. Alors, le regret qu'on peut avoir, c'est que votre sport ne soit pas malheureusement sport olympique.
Ben oui, malheureusement. Puis je crois que...
On en parle, hein. Parce que
oui, on
en
parle, mais
il y a français. Ben, juste...
c'est la faute des joueurs. Ouais. C'est leur tenue. Là, vous disiez un instant sur la tenue. Moi, je prends le championnat que j'ai vu la semaine dernière tête à tête dans les Yvelines. Le comité nous envoie un mail en début de saison en disant tenue obligatoire. Tenue résultat.
Tenue club obligatoire.
Tenue club obligatoire.
C'est-à-dire
le haut.
Un short, un...
Non, le short est interdit.
Un survêtement.
Oui, un survêtement peut-être.
Un survêtement.
Ah, le short est interdit.
Tout, maillot,
short
est interdit.
Tout sauf le jean bleu.
D'accord.
Le short est interdit. D'accord.
Le jean bleu était même interdit.
Paire de tennis aussi, non?
Non, il faut chaussures fermées.
D'accord.
Mais à un moment, j'ai regardé, moi les miens, j'insiste pour qu'ils mettent les tenues. Je regarde et j'entends une annonce au micro. Bon, exceptionnellement, cet après-midi, c'est pas la peine. Demain, tenue obligatoire. On n'y arrivera jamais. Mmh. On n'y arrivera jamais. Allez. Ça, c'est. Il y a des dirigeants qui sont un petit peu à côté de la
plaque. Et on peut pas interdire quelqu'un de jouer s'il a pas une tenue obligatoire.
Dans la mesure où les dirigeants disent, vous pouvez jouer comme ça.
Au tennis, ça s'est fait un moment, Christian. Ouais. Il y avait une tenue obligatoire. Maintenant, ça a changé. Hein.
Oui. Alors. Encore les gens qui pratiquent sont tenus d'avoir des chaussures de tennis.
Bah oui,
c'est-à-dire avec les bords ronds et non pas des bords carrés comme des chaussures de jogging. Hein. Mmh. Ça, on y veille et surtout sur la terre battue. Après, après les tenues, bon, on voit, c'est
ça dépendra des
sponsors. Agassi, qui a fait un peu l'exception, avec son short.
Oui, ça a changé.
Bon, mais il faut voir qu'à Wimbledon, pendant très longtemps,
la tenue toute blanche.
Voilà, c'était des tenues blanches.
Ouais, c'était tout blanc.
Et interdiction d'avoir un pantalon, par contre.
Comme chez Eddie Barclay. Voilà. Chemise blanche, pantalon blanc.
Voilà, c'est ça, Barclay était
toujours. Voilà, toujours. Il mettait. Quand je jouais avec lui, c'était 4 chemises blanches par jour. Voilà.
Ouais, avec la poussière.
Mais vous savez, sur les tenues, moi je viens d'un club de Célémar qui s'appelait Ulster Masters, qui malheureusement a disparu. Nous, on avait un président qui, lui, a tapé sur la table. On avait des tenues obligatoires. Et si on ne les mettait pas, quand on prenait la licence, on signait un accord, et si on ne les mettait pas, on avait 20 euros d'amende. Et
voilà.
Voilà, moi je dis que.
Voilà, c'est retenu sur les prix qu'on gagne, sur les dotations qu'on gagne, sur les sommes qu'on gagne.
Si on est tous habillés pareil, cela va attirer la presse, les sponsors, les. Mm-hmm. Mais moi, je sais pas. J'ai du mal à comprendre ça.
Bon, il n'y a pas encore de la pub sur les maillots.
Pourquoi pas? Si, il y en a.
Si, il y en a.
Mais si.
C'est une façon de faire rentrer de l'argent. Il y a de l'argent dans la pétanque? Dans le sport?
Beaucoup. Il y en a moins qu'avant.
Oui.
Oui, si. Bon, vous avez un concours là, qui a lieu tous les ans, là, mais là, c'est le haut niveau. Il y a 23 000 euros vainqueurs.
Voilà, c'est ça, 23 000 euros aux vainqueurs.
Mais bon,
c'est
à peu
près se partager. Qu'on peut avoir, à se partager.
Oui, mais
se
ça
partager.
Fait des très belles dotations.
Ils disent que non, ils font des chèques, mais bon, ça s'arrange toujours.
Oui, parce qu'il y a aussi des contentieux entre vous.
Des contentieux, non. Nous, on ne partageait pas. Voilà, c'était notre physiologie. On ne voulait pas partager. Nous, on voulait du spectacle. Nous, avant tout, c'était les boules. Si on nous avait dit, quand on était champion du monde, préférer de l'argent au maillot arc-en-ciel, le choix était vite fait chez nous. Nous, on travaillait. Donc, maillot arc-en-ciel, ça nous a permis de faire le tour de la planète.
Est-ce qu'il y a.
On envoie la pub. On envoie
est-ce
la
qu'il
pub.
Y a du dopage dans les. Ouais. Et des contrôles antidopage.
Oui. Il y a du dopage, la fameuse petite cigarette là. Ouais. Hein. Ouais. Oui, moi je connais un joueur que je citerai pas au point de vue national. Moi je l'ai vu au championnat de France faire que des trous. Il a dit monsieur l'arbitre, je vais aller faire pipi. Il est revenu, il a fait que des carreaux. Hein. Il s'est absenté un quart d'heure. Ouais. Mais bon, maintenant les arbitres ont autorité à vouloir faire des contrôles d'alcoolémie et de.
Moi j'ai eu le cas au championnat de France cette année. Hein. Ouais. On nous a fait souffler.
Non mais c'est normal.
À 14 heures avant une partie pour voir. Si on avait bu, bon, on était à zéro. Donc ça allait.
Ah ouais. Très bien. Tiens, vous allez jouer aux animateurs, vous allez nous envoyer la pub.
Allez, pub.
Allez, on y va.
Le restaurant Amaris à Rambouillet a le plaisir de vous accueillir du lundi au vendredi midi et du lundi au jeudi soir pour vous proposer une nouvelle carte avec ses entrées et son buffet d'hors d'œuvre à volonté, ses plats et un large choix de desserts chauds ou froids. Le restaurant Amaris, c'est une cuisine maison composée de produits frais. Découvrez également le menu Amaris à 25 euros et le menu Express à 15,50 euros, servi uniquement le midi et hors jour férié. Alors, pour un repas professionnel ou un moment de convivialité, entre amis ou en famille, une seule adresse, restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Artisan peintre décorateur Sébastien Mohar, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohar, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohar, 34 rue de la Mairie, Orsemont.
International Auto, 284 RN10 à Coignères, achète comptant et immédiatement votre véhicule de moins de 10 ans avec ou sans contrôle technique. Intéressé pour vendre rapidement votre voiture? Une seule adresse. International Auto, 284 RN10 à Coignères. Téléphone 0607 65 34 40. 0607 65 34 40.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
I wish wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed. The different names, we would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah, we used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah, wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Alors, on en parlait justement hors antenne. Il y a un partenariat qui est passé entre donc la Fédé de pétanque et puis l'éducation nationale.
Alors voilà, la pétanque va rentrer comme sport. Dans les écoles, donc ils vont signer un accord tous les deux. Donc il y aura une heure de sport par jour. Et moi, on m'a posé la question si j'étais intéressé d'entraîner les enfants, et j'ai répondu favorablement.
Ah oui, un champion du monde.
Voilà, moi, les enfants, m'en occuper tous les jours, le matin, l'après-midi, aucun souci, petit garçon, petite fille. J'adore ce sport, et peut-être qu'on découvrira des champions, comme j'ai découvert des champions dans mon école.
Patrick, très brièvement, 30 secondes, il y a des sports, il y a des endroits un peu insolites où on peut pratiquer ce sport, Madagascar, Monaco, c'est quand même assez particulier.
Non, pas spécialement. Non,
si,
non.
Quand même, Madagascar, on fait pas beaucoup de sport quand même.
Madagascar,
oui, mais ce sont des joueurs très adroits qui ont été champions du monde. Hein. Monaco, bon, on connaît les joueurs monégasques, s'il y a un petit peu de français dedans. Non, on peut jouer partout. Vous savez, on joue. Moi, je suis allé jouer.
Non, mais qui sont à très haut niveau, c'est ce que je veux dire.
Oui, moi, je suis allé jouer en Californie aussi. Oui. Je suis allé en Thaïlande.
Ça paraît plus classique.
En Thaïlande, les Thaïlandaises, parce que c'est un sport national, comme dans les pays du Maghreb, où là, à l'armée, on pratique ce sport.
D'accord, très bien. Merci en tout cas d'être venu participer à cette émission de printemps sur Tribune Sport. On aura l'occasion de vous réinviter, ok ?
Avec plaisir, merci à vous.
Voilà. Merci à David.
Merci.
Merci Christian.
À très bientôt. Merci donc à Géraldine. Hein, et puis on va remercier aussi Robin qui a été une nouvelle fois aux manettes. Cette émission, vous pourrez la réécouter dans le courant de la semaine en podcast. Donc voilà, sans aucun problème. La semaine prochaine, c'est Pâques, donc on s'accorde un tout petit week-end de repos, hein, comme pour les fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve dans 15 jours, ça sera Tribune Foot. Et puis la prochaine de Tribune Sport, le dimanche 10 avril. Bon dimanche à toutes et à tous. Restez fidèles à l'écoute des programmes d'Herve. Et bon dimanche. Merci.
Bon dimanche.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Vivez votre région. RVE.